Étude sur le chapitre 2 de l'Exode. Première partie, versets 1 à 10. Cette portion du livre de l'Exode abonde en principes de vérité divine de la plus haute importance et que nous pouvons classer sous trois chefs principaux, savoir la puissance de Satan, la puissance de Dieu et la puissance de la foi. Au dernier verset du chapitre précédent, nous lisons « Le Pharaon commanda à tout son peuple, disant « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. » C'est là la puissance de Satan. Le fleuve était le lieu de la mort, et par la mort, l'ennemi cherchait à rendre vain le dessein de Dieu. De tout temps, le serpent a veillé d'un œil malin sur les instruments dont Dieu voulait se servir pour accomplir ses conseils de miséricorde. Que voyons-nous au chapitre 4 de la Genèse, si ce n'est le serpent veillant sur Abel, le vase choisi par Dieu, et s'efforçant de le faire disparaître par la mort? Dans l'histoire de Joseph, Genèse 37, on voit encore l'ennemi à l'œuvre cherchant à faire mourir l'homme choisi de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Il en est de même lors de l'extermination de la semence royale, de Chroniques 22, des petits-enfants de Bethléem, Matthieu 2, dans la mort de Christ, Matthieu 27. Dans chacun de ces cas, l'ennemi a cherché à interrompre, par le moyen de la mort, le courant de l'action divine. Mais que Dieu en soit béni, il existe quelque chose au-delà de la mort. Toute la sphère de cette action de Dieu, en tant qu'elle est liée à la rédemption, se trouve au-delà des limites du domaine de la mort. C'est quand Satan a épuisé toute sa puissance que Dieu commence à se montrer. Le tombeau est le terme de l'activité de Satan. Mais là commence l'activité de Dieu. Glorieuse vérité. Satan a la puissance de la mort, mais Dieu est le Dieu des vivants et il communique une vie qui est au-delà des atteintes et de la puissance de la mort, une vie à laquelle Satan ne peut toucher. Le cœur croyant trouve ainsi un doux soulagement au milieu d'une scène où règne la mort. Il peut sans effroi contempler Satan déployant la plénitude de son pouvoir. Il peut s'appuyer avec confiance sur la puissante intervention de Dieu dans la résurrection. Il peut s'arrêter devant la tombe qui vient de se fermer sur un objet bien-aimé et recueillir de la bouche de celui qui est la résurrection et la vie la bienheureuse assurance d'une glorieuse immortalité. Sachant que Dieu est plus fort que Satan, il peut attendre en paix la pleine manifestation de la force supérieure de Dieu et, en attendant ainsi, trouver la victoire de cette force et la paix assurée qu'elle porte avec elle. Les premiers versets de ce chapitre nous offrent un bel exemple de cette puissance de la foi. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi. Et la femme conçut et enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha 3 mois. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, et l'enduisit de bitume et de poix, et mit dedans l'enfant, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve, et sa sœur se tint à distance pour savoir ce qu'on lui ferait. Versets 1 à 4. De quelque manière que nous l'envisagions, cette scène est d'un vif intérêt. Nous y voyons la foi triomphant des influences de la nature et de la mort, et permettant au Dieu de résurrection d'agir dans la sphère et selon le caractère qui lui sont propres. Sans doute, la puissance de l'ennemi se montre, elle aussi, d'une manière évidente, en ce qu'il a fallu que l'enfant se trouvât placé dans une semblable position, une position de mort en principe. De plus, une épée transperce le cœur de la mère quand elle voit son enfant bien-aimé couché ainsi dans la tombe. Mais si Satan pouvait agir, si la nature pleurait, Celui qui vivifie les morts était derrière le sombre nuage, et la foi le contemplait là, dorant de ses brillants et vivifiants rayons le côté céleste du nuage. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Hébreux 11, verset 23. Par cet acte, cette noble fille de Lévi nous donne une sainte leçon. Son coffret de joncs, enduit de bitume, proclame la confiance qu'elle avait en la vérité qu'il y avait quelque chose qui, comme autrefois pour Noé, le prédicateur de justice, pouvait abriter ce bel enfant contre les eaux de la mort. En effet, le coffret de joncs était-il seulement une invention humaine, la création de la prévoyance et de l'adresse naturelle de l'homme, l'inspiration d'un cœur de mère nourrissant la chair mais chimérique espérance d'arracher son trésor aux mains impitoyables de la mort par l'eau, ou n'est-ce pas plutôt la foi qui l'a formé pour être un vaisseau de miséricorde, pour porter en toute sûreté un bel enfant par-dessus les sombres eaux de la mort, à la place qui lui était destinée par le décret immuable du Dieu vivant. Lorsque nous contemplons la fille de Lévi penchée sur ce coffret de joncs que sa foi a construit et y déposant son enfant, la mère de Moïse nous apparaît comme une image de la foi qui, s'élevant hardiment bien au-dessus de cette terre de mort et de désolation, perce de son regard d'aigle les sombres nuages qui s'amoncellent autour d'une tombe et voit le Dieu de résurrection déployer les résultats de ses éternels conseils dans une sphère où nulle flèche de la mort ne peut atteindre. Appuyée sur le rocher des siècles, elle écoute dans un saint triomphe pendant que les vagues de la mort bruissent à ses pieds. Or, quelle pouvait être la valeur du commandement du roi pour une âme qui possédait ce principe céleste? Quelle importance pouvait-il avoir pour celle qui pouvait se tenir calmement à côté de son coffret de joncs et regarder la mort en face? Le Saint-Esprit nous l'apprend. Par la foi, les parents de Moïse ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Hébreux 11, verset 23. L'âme qui sait un peu ce que c'est que la communion avec le Dieu qui ressuscite les morts n'a peur de rien. Elle peut emprunter le langage triomphant de l'apôtre, 1 Corinthiens 15, versets 55-57, et dire « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire ?» Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle peut prononcer ses paroles de triomphe sur le martyr, Abel, sur Joseph dans la fosse, sur Moïse dans son coffret de joncs, sur la race royale exterminée par la main d'Athalie, sur les petits-enfants de Bethléem mis à mort par l'ordre du cruel Hérode, et, par-dessus tout, elle peut les prononcer sur la tombe du capitaine de notre salut. Mais quelques-uns peut-être ne savent pas discerner dans la construction du coffret de joncs l'œuvre de la foi. Plusieurs sont peut-être incapables d'aller plus près que la sœur de Moïse, laquelle se tint à distance pour savoir ce qu'on lui ferait. Il est bien évident que la sœur n'était pas à la hauteur de la mère, quant à la mesure de la foi. Il y avait en elle sans aucun doute cet intérêt profond, cette affection réelle que nous voyons en Marie de Magdala et l'autre Marie, assise vis-à-vis du sépulcre, Matthieu 27, verset 61. Mais il y avait dans l'auteur du coffret quelque chose de bien supérieur à l'intérêt ou à l'affection. Il est vrai, la mère ne se tenait pas à distance pour savoir ce qu'on ferait à son enfant. Et comme il arrive fréquemment, la grandeur morale de la foi chez elle pouvait paraître comme de l'indifférence. Toutefois, ce n'était pas de l'indifférence, mais de la vraie grandeur, la grandeur de la foi. Si son affection naturelle ne la retient pas près du théâtre de la mort, La puissance de la foi avait donné à la mère de Moïse une œuvre plus noble à accomplir en la présence du Dieu de résurrection. Sa foi avait fait place pour lui sur la scène et il s'y manifesta d'une manière infiniment glorieuse. Et la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver et ses jeunes filles se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux et elle envoya sa servante qui le prit et elle l'ouvrit et vit l'enfant. Et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle eut compassion de lui et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Verset 5-6. La réponse divine commence ici à se faire entendre à l'oreille de la foi par les plus doux accents. Dieu était dans tout cela. Que le rationalisme, l'incrédule, l'athée rit à cette idée, la foi aussi en rit, mais d'un rire bien différent. Le rire des premiers est le rire froid du dédain à l'idée d'une intervention divine dans une affaire aussi triviale que celle de la promenade d'une fille de roi. Le rire de la foi est un rire de bonheur à la pensée que Dieu est dans tout ce qui arrive. Et si jamais l'intervention de Dieu s'est montrée en quelque chose, c'est assurément dans cette promenade de la fille de Pharaon, bien que celle-ci n'en sût rien. L'une des plus douces occupations de l'âme régénérée est de suivre les traces de l'intervention divine dans des circonstances et des événements dans lesquels un esprit léger ne sait voir qu'un hasard aveugle ou un destin cruel. Il arrive parfois que la chose la plus insignifiante devient un anneau important dans une chaîne d'événements que le Dieu Tout-Puissant fait concourir au déploiement de ses grands desseins. Ainsi, par exemple, au chapitre 6 du livre d'Esther, verset 1, vous voyez un monarque païen passant une nuit sans sommeil, circonstance sans doute assez ordinaire pour lui et pour beaucoup d'autres. Et cependant, cette circonstance même devint un anneau dans cette longue chaîne d'événements providentiels que nous voyons se terminer par la merveilleuse délivrance de la postérité opprimée d'Israël. Il en est de même de la fille de Pharaon dans sa promenade au bord de la rivière. Elle ne songeait guère qu'elle allait concourir à l'avancement du dessein de Jéhovah, le Dieu des Hébreux. Combien peu elle pensait que cet enfant qui pleurait dans ce coffret de jonc était l'instrument destiné par Jéhovah pour ébranler l'Égypte jusque dans ses fondements. Cependant, il en était ainsi. L'Éternel peut faire que la colère de l'homme le loue, et il peut se ceindre du reste de la colère. Psaume 76, verset 10. Et sa sœur dit à la fille du Pharaon, « Irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice d'entre les Hébreux, et elle t'allaitera l'enfant ?» Et la fille du Pharaon lui dit, « Va !» Et la jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et l'enfant grandit, et elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut son fils. Et elle appela son nom Moïse et dit, « Car je l'ai tiré des eaux. » Verset 7 à 10. La foi de la mère de Moïse trouve ici sa pleine récompense. Satan est confondu et la merveilleuse sagesse de Dieu est manifestée. Qui aurait imaginé que celui qui avait dit, « Si c'est un fils, vous le ferez mourir, et encore, tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve », aurait à sa cour un de ses mêmes fils et un pareil fils. Le diable fut vaincu par ses propres armes en tant que Pharaon dont il voulait se servir pour anéantir le dessein de Dieu, fut employé par Dieu pour nourrir et élever ce Moïse qui devait être l'instrument de Dieu pour confondre la puissance de Satan. Vraiment, l'Éternel se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Ésaïe 28, verset 29. Confions-nous en lui avec plus de simplicité, alors notre sentier sera plus heureux et notre témoignage plus efficace. deuxième partie, versets 11 à 25. En méditant l'histoire de Moïse, il faut considérer ce grand serviteur de Dieu sous le double point de vue de son caractère personnel et de son caractère typique. Il y a dans le caractère personnel de Moïse beaucoup de choses à apprendre pour nous. Dieu dut non seulement le susciter, mais encore le former d'une manière ou d'une autre durant une longue période de 80 années. D'abord dans la maison de la fille de Pharaon, ensuite derrière le désert, chapitre 3, verset 1. À nos esprits bornés, 80 années paraissent un temps bien long pour l'éducation d'un serviteur de Dieu. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu savait que ces 2 fois 40 ans était nécessaire à la préparation de ce vaisseau choisi par lui. Quand Dieu fait l'éducation de quelqu'un, il l'a fait d'une manière qui est digne de lui-même et de son saint service. Il ne veut pas d'un novice pour faire son œuvre. Le serviteur de Christ doit apprendre plus d'une leçon. Il doit passer par plus d'un exercice et soutenir plus d'une lutte en secret avant que d'être véritablement propre pour agir en public. La nature n'aime pas cela. Elle aimerait mieux jouer un rôle en public que d'apprendre en secret. Elle aimerait mieux être l'objet de l'admiration des hommes que d'être disciplinée par la main de Dieu. Mais il faut que nous suivions le chemin de Dieu. La nature peut bien se précipiter dans le champ de l'action, mais Dieu n'en a que faire là. Il faut qu'elle soit brisée, consumée, mise de côté. Le lieu de la mort est la place qui lui convient. Si elle veut agir, Dieu, dans sa fidélité et sa sagesse parfaite, conduira les choses de telle manière que le résultat de cette activité de la nature tournera à sa complète confusion. Dieu sait ce qu'il faut faire de la nature. Il sait là où elle doit être placée et là où elle doit être retenue. Puissions-nous tous entrer plus profondément dans les pensées de Dieu à l'égard du moi et de tout ce qui s'y rapporte. Ainsi, nous tomberons moins souvent dans l'erreur. Notre marche sera ferme et moralement élevée, notre esprit paisible et notre service efficace. Verset 11-12. Et il arriva en ces jours-là que Moïse étant devenu grand, sortit vers ses frères, et il vit leur fardeau. Et il vit un homme égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Et il regarda çà et là, et vit qu'il n'y avait personne, et il frappa l'égyptien, et le cacha dans le sable. Moïse montre ici du zèle pour ses frères, mais non pas selon la connaissance, Romains 10, verset 2. Le temps fixé par Dieu pour le jugement de l'Égypte et la délivrance d'Israël n'était pas encore venu. Or, le serviteur intelligent attend toujours le temps de Dieu. Moïse, devenu grand, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. De plus, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main. Actes 7, verset 22-28. Tout cela était vrai. Néanmoins, il est évident que Moïse courut avant le temps, et quand il en est ainsi, la chute est proche.
Et non seulement la chute à la fin, mais encore l'incertitude et les défauts de calme et de saine dépendance dans la marche même d'une œuvre commencée avant le temps de Dieu.
Moïse regarda çà et là. Quand on agit avec Dieu et pour Dieu, dans la pleine intelligence de ses pensées quant aux détails de l'œuvre, on n'a pas besoin de regarder ça et là. Si le temps de Dieu eût été réellement là, si Moïse eut en lui-même la conscience qu'il avait reçu de Dieu la mission d'exécuter le jugement sur l'Égyptien, et s'il eût été sûr que la présence de Dieu était avec lui, il n'eût pas regardé ça et là. L'acte de Moïse à l'égard de l'Égyptien renferme une leçon profondément pratique pour tout serviteur de Dieu. 2 circonstances s'y rattachent, savoir la crainte et la colère de l'homme et l'espoir d'obtenir la faveur de l'homme. Or, le serviteur de Dieu ne devrait s'inquiéter ni de l'une ni de l'autre. Qu'importe la colère ou la faveur d'un pauvre mortel à quiconque est investi d'une mission divine et jouit de la présence de Dieu. Elles ont pour un tel homme moins d'importance que la menue poussière qui s'attache à une balance. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Et toi, Saint-Hérin, élève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois point effrayé d'eux de peur que moi je ne t'épouvante devant eux. Et moi, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme des murailles d'airain contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs et le peuple du pays. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Jérémie 1, verset 17-19. Placé sur ce terrain élevé, le serviteur de Christ ne regarde pas ça et là. Il agit selon ce conseil de la sagesse divine. Que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Proverbe 4, verset 25. La sagesse divine nous conduit toujours à regarder en haut et en avant. Il y a du mal en nous et nous ne sommes pas sur le vrai terrain du service pour Dieu, soyons-en sûrs, quand nous regardons autour de nous, soit pour éviter le regard courroucé d'un mortel, soit pour rencontrer le sourire de son approbation. Nous n'avons pas l'assurance que notre mission est d'autorité divine et que nous jouissons de la présence de Dieu, choses qui, toutes deux, sont absolument nécessaires à tout serviteur de Dieu. Un grand nombre de personnes, il est vrai, soit par une profonde ignorance, soit par une confiance excessive en elles-mêmes, entrent dans une sphère d'activité à laquelle Dieu ne les destinait point et pour laquelle, par conséquent, il ne les avait point qualifiées. Et de plus, ces personnes montrent un sang-froid, une possession d'elles-mêmes, étonnant pour ceux qui sont en état de juger avec impartialité de leurs dons et de leurs mérites. Mais toute cette belle apparence fait place bien vite à la réalité et ne peut porter la moindre atteinte au principe que rien ne peut réellement délivrer un homme de la tendance à regarder ça et là, si ce n'est la conscience d'une mission de Dieu et de la présence de Dieu. Celui qui possède ces deux choses est entièrement délivré des influences humaines. Il est indépendant des hommes et nul n'est en état de servir les autres qui n'est pas entièrement indépendant d'eux. Mais celui qui connaît sa vraie place peut s'abaisser pour laver les pieds de ses frères. Si nous détournons nos regards de l'homme et que nous les portions sur le seul fidèle et parfait serviteur, nous ne le voyons pas regarder ça et là, par la raison bien simple que ses yeux n'étaient jamais arrêtés sur les hommes, mais toujours sur Dieu. Jésus ne craignait pas la colère de l'homme, ni ne recherchait sa faveur. Il n'ouvrit jamais la bouche pour obtenir les applaudissements des hommes. Il ne se tut jamais pour éviter leur blâme. C'est pourquoi toutes ses paroles et toutes ses actions étaient empreintes d'élévation et de sainte fermeté. Il est le seul dont on ait pu dire avec vérité « Sa feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait prospère. » Psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il faisait tournait à profit parce qu'il faisait toutes choses pour Dieu. Tous ses actes, toutes ses paroles, tous ses mouvements, ses regards, ses pensées ressemblaient à un beau bouquet de fruits fait pour réjouir le cœur de Dieu et dont le parfum montait vers lui. Il n'avait jamais aucune crainte quant au résultat de son œuvre parce qu'il agissait toujours avec Dieu et pour Dieu et dans une pleine intelligence de ses pensées. Jamais sa propre volonté, quelque divinement parfaite qu'elle fût, ne se mêla à quoi que ce soit de ce qu'il fit comme homme sur la terre. Il a pu dire « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, verset 38. C'est pourquoi il rendait son fruit en sa saison. Il faisait toujours les choses qui plaisaient au Père, Jean 8, verset 29, et par conséquent n'avait jamais rien à craindre, jamais besoin de se repentir ou de regarder ça et là. Or, à cet égard, comme à tout autre, le bienheureux Maître forme un contraste frappant avec les plus distingués et les plus éminents de ses serviteurs. Moïse même eut peur et Paul eut du regret. Verset 14 et 2 Corinthiens 7, verset 8. Le Seigneur Jésus ne fit jamais ni l'un ni l'autre. Il n'eut jamais à revenir sur ses pas, ni à retirer une parole, ni à rectifier sa pensée. Tout en lui était parfait d'une manière absolue. Tout était du fruit en sa saison. Le courant de sa vie sainte et céleste coulait en avant sans trouble ni déviation. Sa volonté était parfaitement soumise. Les hommes les meilleurs et les plus dévoués commettent des erreurs, mais il est certain que plus nous pourrons, par la grâce, mortifier notre propre volonté, moins nous en commettrons. C'est un bonheur quand, en somme, notre sentier est réellement un sentier de foi et de sincère dévouement à Christ. Ainsi marchait Moïse. Il était un homme de foi, un homme qui s'abreuvait et se pénétrait de l'esprit de son maître et marchait sur ses traces avec une fermeté et une constance merveilleuses. Il anticipa, il est vrai, de 40 années le temps fixé par Dieu pour le jugement de l'Égypte et la délivrance d'Israël. Cependant, nous ne voyons pas qu'il soit fait mention de ce fait dans le commentaire inspiré que nous trouvons au chapitre 11 aux Hébreux, où il n'est question que du principe divin sur lequel, en somme, sa marche était fondée. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, versets 24-27. Ce passage nous présente la conduite de Moïse d'une manière pleine de grâce. C'est toujours ainsi que le Saint-Esprit traite l'histoire des saints de l'Ancien Testament. Quand il écrit l'histoire d'un homme, il nous montre cet homme tel qu'il est, avec toutes ses fautes et toutes ses imperfections. Mais quand, dans le Nouveau Testament, il commente cette même histoire, il se borne à faire connaître le vrai principe et le résultat général de la vie de cet homme. Ainsi, bien qu'il soit rapporté dans l'Exode que Moïse regarda ça et là, qu'il eut peur et dit « certainement le fait est connu », et enfin que Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que ce que Moïse fit, il le fit par la foi, qu'il ne craignait pas la colère du roi, qu'il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Il en sera bientôt de même quand le Seigneur viendra, qui mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs. Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est là une vérité bien consolante et bien précieuse pour toute âme droite et pour tout cœur fidèle. Le cœur peut former plus d'un dessein que, pour diverses raisons, la main est incapable d'exécuter. Tous ces desseins seront manifestés quand le Seigneur viendra. Béni soit la grâce qui nous en a donné l'assurance. Les conseils d'amour d'un cœur qui lui est attaché sont bien plus précieux à Christ que les œuvres extérieures les plus parfaites. Celles-ci pourront briller aux yeux des hommes et faire l'objet de leurs discours. Les premiers ne sont destinés que pour le cœur de Jésus et ils seront manifestés devant Dieu et les saints anges. Puissent les cœurs de tous les serviteurs de Christ être exclusivement occupés de sa personne. Puissent leurs yeux être fermement arrêtés sur son retour. En étudiant la vie de Moïse, nous voyons que la foi lui fit suivre une route tout opposée au cours ordinaire de la nature, portant Moïse non seulement à mépriser tous les plaisirs, toutes les séductions et tous les honneurs de la cour de Pharaon, mais encore à abandonner un champ d'activité utile en apparence très étendu. Le raisonnement des hommes l'aurait conduit dans une voie toute contraire, il l'aurait porté à user de son influence en faveur du peuple de Dieu, et à agir en faveur de ce peuple plutôt qu'à souffrir avec lui. Selon le jugement de l'homme, la Providence semblait avoir ouvert à Moïse un champ de travail étendu et très important, et en effet, si jamais la main de Dieu a manifestement placé quelqu'un dans une position toute particulière, C'est bien le cas pour Moïse. Ce fut par une intervention merveilleuse et par un enchaînement incompréhensible de circonstances dont chacune révélait la main du Tout-Puissant et que nulle prévoyance humaine n'eût pu combiner, que la fille de Pharaon devint l'instrument par lequel Moïse fut retiré des eaux, nourri et élevé jusqu'à ce qu'il fût parvenu à l'âge de 40 ans. Acte 7, verset 23. En de pareilles circonstances, l'abandon de sa haute position et de l'influence qu'elle lui permettait d'exercer ne pouvait être envisagé chez Moïse que comme le résultat d'un zèle malentendu. Ainsi résonne notre pauvre nature aveugle, mais la foi pensait autrement, car la nature et la foi sont toujours en opposition l'une avec l'autre. Elles ne peuvent s'accorder sur un seul point. Et peut-être n'est-il rien sur quoi elle diffère davantage que sur ce qu'on appelle généralement les directions providentielles. La nature envisagera toujours ces directions comme des autorisations pour se laisser aller à ses propres penchants, tandis que la foi les considérera comme autant d'occasions de renoncement à soi-même. Jonas aurait pu voir dans la rencontre d'un vaisseau allant à Tarsis une direction bien remarquable de la providence. Tandis que, de fait, ce fut une porte par laquelle il se détourna du chemin de l'obéissance. Sans doute, c'est le privilège du chrétien de voir la main et d'entendre la voix de son Père en toutes circonstances. Le chrétien qui se laisse conduire par elle ressemble à un vaisseau en mer, sans boussole et sans gouvernail. Il est exposé à la merci des vagues et des vents. La promesse de Dieu à son enfant est « Je te conseillerai ayant mon œil sur toi » psaume 32, verset 8. Et sa parole d'avertissement « Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi » psaume 32, verset 9. Or, il vaut mieux être guidé par l'œil de notre Père que par le mors et le frein des circonstances. Et nous savons que dans l'acception ordinaire de l'expression « la providence » n'est qu'un autre terme pour exprimer l'action des circonstances. Or, la puissance de la foi se montre constamment dans le refus et l'abandon de ses prétendues directions providentielles. Il en fut ainsi dans le cas de Moïse. Par la foi, il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, et par la foi, il quitta l'Égypte. S'il eût jugé sur la vue de ses yeux, il eût saisi la dignité qui lui était offerte comme un don manifeste de la Providence, et il fut resté à la cour de Pharaon, où en apparence la main de Dieu lui avait préparé un vaste champ de travail. Mais comme il marchait par la foi et non sur la vue de ses yeux, il abandonna tout. Quel noble exemple à suivre! Et remarquez que ce que Moïse estima un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, c'était non pas seulement l'opprobre pour Christ, mais l'opprobre de Christ. « Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi » psaume 69, verset 9. Le Seigneur Jésus s'identifia en parfaite grâce avec son peuple, quittant le sein du Père et déposant toute la gloire dont il était revêtu, il descendit du ciel. Il se mit à la place de son peuple, il confessa les péchés des siens et porta leur jugement sur le bois maudit. Tel fut son dévouement volontaire. Il ne se borna pas à agir pour nous, mais il se fit un avec nous, nous délivrant ainsi de tout ce qui pouvait être contre nous. Nous voyons de cette manière à quel degré Moïse, dans ses sympathies, entrait dans les pensées et les sentiments de Christ à l'égard du peuple de Dieu. Placé comme il l'était au milieu de tout le bien-être, de la pompe et de la gloire de la maison de Pharaon, là où les délices du péché et les richesses de l'Égypte abondaient, il eût pu, s'il l'eût voulu, jouir de toutes ces choses. Il eût pu vivre et mourir dans l'opulence et traverser un chemin éclairé du commencement à la fin par le soleil de la faveur royale. Mais ce n'eût pas été la foi, ce n'eût pas été conforme à Christ. De la position élevée qu'il occupait, Moïse vit ses frères courbés sous le poids des pesants fardeaux qu'on avait mis sur eux. Et, par la foi, il comprit que sa place était avec eux. Oui, avec eux dans leur opprobre, dans leur servitude, dans leur affliction et leur avilissement. S'il n'eût été mu que par un sentiment de bienveillance, de philanthropie ou de patriotisme, il eût pu faire valoir son influence personnelle en faveur de ses frères. Il fut parvenu peut-être à engager Pharaon à diminuer le fardeau sous lequel il les accablait et à leur rendre la vie plus douce par des concessions royales qu'il leur eût fait accorder. Mais une voix pareille ne sera jamais celle d'un cœur quelque peu en communion avec le cœur de Christ et ne le satisfera jamais. Or, tel était, par la grâce, le cœur de Moïse. C'est pourquoi, avec toute l'énergie et toutes les affections de ce cœur, il se jeta, corps, âme et esprit, au milieu même de ses frères opprimés, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Et, de plus, c'est par la foi qu'il agit ainsi. Pesez bien ceci, cher lecteur. Nous ne devons pas nous contenter de désirer le bien du peuple de Dieu, de nous employer pour lui ou de parler avec bienveillance en sa faveur. Nous devons nous identifier pleinement avec lui, quelque méprisé et persécuté qu'il puisse être. Un esprit généreux et bienveillant peut trouver une certaine jouissance à patronner le christianisme, mais c'est quelque chose de tout à fait différent de s'identifier avec les chrétiens et de souffrir avec Christ. C'est une chose que d'être un protecteur, c'est toute une autre chose d'être un martyr. Ces deux choses sont distinguées l'une de l'autre d'un bout à l'autre de l'Écriture. Abdias prit soin des témoins de Dieu, 1 roi 18, verset 3-4. Mais Élie fut un témoin pour Dieu. Darius était si fort attaché à Daniel que, à cause de lui, il passa une nuit sans sommeil. Mais Daniel passa cette même nuit dans la fosse aux lions comme témoin de la vérité. Daniel 6, verset 18. Nicodème hasarda une parole pour Christ, mais une plus mûre connaissance du Maître l'aurait porté à s'identifier avec lui. Ces considérations sont éminemment pratiques. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de protecteurs, il veut des compagnons. La vérité qui le concerne nous est révélée non pas pour que nous prenions la défense de sa cause sur la terre, mais pour que nous ayons communion avec sa personne dans les cieux. Il s'est identifié avec nous au prix immense de tout ce que l'amour pouvait donner. Il n'y était point obligé, il eût pu garder sa place éternelle dans le sein du Père. Mais alors, comment le puissant fleuve d'amour qui était retenu dans son cœur eût-il pu descendre jusqu'à nous, pécheurs coupables et dignes de l'enfer? Entre lui et nous, il ne pouvait y avoir d'unité qu'à des conditions qui exigeaient de sa part l'abandon de toute chose. Mais béni soit à jamais son nom adorable, il s'y est volontairement soumis. Il s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, verset 14. Il n'a pas voulu jouir tout seul de sa gloire, il a voulu satisfaire son cœur aimant en s'associant plusieurs fils dans cette gloire. Père, dit-il, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, verset 24. Telles étaient les pensées de Christ à l'égard de son peuple, et nous pouvons juger combien le cœur de Moïse sympathisait avec ses pensées bénies. Sans contredit, il participait à un haut degré de l'esprit de son maître, et montra cet esprit en sacrifiant de son plein gré toute considération personnelle, et en s'associant sans réserve au peuple de Dieu. Dans le chapitre suivant, nous aurons à considérer de nouveau le caractère personnel et les actes de ce grand serviteur de Dieu. Nous nous bornons à le considérer ici comme type du Seigneur Jésus. D'après ce que nous lisons, Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Comparé Actes 7, verset 37. Il est évident que Moïse était un type de Christ. Nous ne nous livrons donc pas à des pensées d'hommes en considérant Moïse comme un type, mais nous suivons l'enseignement clair et express de l'Écriture qui, dans les derniers versets du chapitre 2 de l'Exode, nous présente ce même type sous un double aspect. d'abord verset 14 et acte 7 verset 27-28 dans sa réjection par Israël, ensuite dans son union avec une étrangère du pays de Madian verset 21-22. Nous avons déjà développé ces deux points en quelque mesure dans l'histoire de Joseph qui, rejeté par ses frères selon la chair, s'unit à une femme égyptienne. La réjection de Christ par Israël et son union avec l'Église sont représentées en figure dans l'histoire de Joseph comme dans celle de Moïse, mais sous des aspects différents. Dans l'histoire de Joseph, on voit la manifestation de l'inimitié positive contre sa personne. Dans celle de Moïse, il s'agit plutôt de la réjection de sa mission. De Joseph, il est écrit, il le haïssait et ne pouvait lui parler paisiblement. À Moïse, ils dirent, qui t'a établi chef et juge sur nous? En un mot, le premier fut personnellement haï, le dernier publiquement rejeté. Il en est de même quant à la manière dont le grand mystère de l'Église est présenté dans l'histoire de ces deux saints de l'Ancien Testament. Asnath représente une phase de l'Église toute différente de celle qui est représentée par Séphora. Asnath fut unie à Joseph pendant le temps de son exaltation. Séphora fut la compagne de Moïse pendant le temps de sa vie obscure au désert. Comparez Genèse 41, versets 41-45, avec Exode 2, versets 15 et 3, verset 1. Joseph et Moïse étaient tous deux rejetés par leurs frères à l'époque de leur union avec une étrangère. Mais le premier était gouverneur sur tout le pays d'Égypte, tandis que le dernier paissait un troupeau derrière le désert. Soit donc que nous contemplions Christ manifesté en gloire ou caché à la vue du monde, l'Église lui est intimement associée. Et de même que le monde ne le voit pas maintenant, il ne peut pas non plus prendre connaissance de ce corps qui est un avec lui. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 1. Bientôt, Christ apparaîtra dans sa gloire et l'Église apparaîtra avec lui. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Colossiens 3, verset 4. Et encore, la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 22-23. Un renvoi. Il est question de deux unités distinctes ou différentes dans Jean 17, verset 21-23. La première était cette unité dont le maintien était placé sous la responsabilité de l'Église qui y a complètement manqué. La seconde est cette unité que Dieu accomplira immanquablement, qu'il manifestera dans la gloire. Si le lecteur relit avec soin ce passage, il se convaincra aisément de cette différence, soit quant au caractère, soit quant au résultat de ces unités. Je reprends. Telle est la haute et sainte position de l'Église. Elle est une avec celui qui est rejeté du monde, mais qui occupe le trône de la majesté dans les cieux. Le Seigneur Jésus s'est rendu responsable pour elle sur la croix, afin qu'elle partageât sa réjection présente et sa gloire à venir. Plût à Dieu que tous ceux qui font partie d'un corps aussi glorieusement privilégié fussent plus profondément pénétrés du sentiment intelligent de la marche qui leur convient et du caractère qu'ils doivent revêtir ici-bas. Alors, assurément, les enfants de Dieu devraient répondre tous, plus pleinement et plus nettement, à cet amour dont il les a aimés, à ce salut qu'il leur a donné et à cette dignité dont il les a revêtus. La marche du chrétien devrait toujours être le résultat naturel d'un privilège compris et réalisé, non le résultat forcé de promesses et de résolutions légales. Le fruit naturel d'une position connue et dont on jouit par la foi, non le fruit des propres efforts de l'homme pour arriver à une position par des œuvres de loi. Tous les vrais croyants sont une partie de l'épouse de Christ. Ils doivent donc à Christ les affections qui conviennent à cette relation. On n'entre pas dans la relation à cause des affections, mais les affections découlent de la relation. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, de tout ton peuple bien-aimé que tu as racheté au prix de ton sang.